VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 4 mars 2016 en direct de Washington. Bagassi Koura et Michel Joseph, voici les titres.
En Guinée, 6 militaires dont un ancien chef de l'armée en prison depuis l'attaque du domicile du président Alpha Condé en 2011 ont été libérés après leur procès.
L'armée nigériane assure avoir sauvé au cours d'une opération 63 personnes qui étaient détenues par le groupe Boko Haram.
L'ONU a recensé l'an dernier 69 cas d'abus sexuels qui auraient été commis par ces casques bleus, plus qu'en 2014.
Des experts américains sont arrivés en Éthiopie pour aider ce pays à faire face à sa pire sécheresse des 50 dernières années.
Nouveau débat télévisé dans la course à la Maison Blanche.
Vous n'avez jamais employé une personne de votre vie. J'ai employé des dizaines de milliers de personnes, a répondu Donald Trump sur la défensive.
L'homme d'affaires Donald Trump a subi hier soir les attaques répétées de ses adversaires des primaires républicaines.
Dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et le sport. Mais d'abord, le journal. Cette nouvelle encourageante, l'armée nigériane assure avoir sauvé au cours d'une opération 63 personnes qui étaient détenues par le groupe Boko Haram. Selon l'armée, les hommes du groupe islamiste ont été délogés des villages du nord-est du pays. 5 islamistes ont été tués selon le porte-parole de l'armée nigériane cité par l'AFP.
L'ONU a recensé l'an dernier 69 cas d'abus sexuels qui auraient été commis par ces casques bleus davantage qu'en 2014. Selon l'AFP, ces cas sont concentrés sur deux pays, la République centrafricaine et la République démocratique du Congo. Selon un rapport annuel du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, cette augmentation sur 2014, où il y aurait eu 52 cas, et davantage aussi qu'en 2013, quand il y a eu 66 cas.
Le rapport recommande de créer des cours martiales in situ pour juger les coupables et de prendre les empreintes génétiques des casques bleus. Sur les 69 cas d'accusation d'abus ou d'exploitation sexuelle, 38, soit 55% des cas, ont été enregistrés dans deux des 16 missions de maintien de la paix de l'ONU dans le monde, 22 en RCA et 16 en RDC. Dans 19 cas au moins, les victimes étaient des mineurs.
Cet avertissement capital en Guinée-Bissau, tout soldat qui tentera de déstabiliser le pays sera abattu, mis en garde par le général Biag Ntatam dans une déclaration publique à Bissau.
En Guinée, 6 militaires, dont un ancien chef de l'armée en prison depuis l'attaque du domicile du président Alpha Condé en 2011, ont été libérés après leur procès. Idriss Fall.
Le juge Sekou Dani Keta, un magistrat civil, président du tribunal militaire permanent de Conakry, a condamné les 6 prévenus à un temps égal à leur détention préventive et respective et a ordonné leur libération. À l'énoncé du verdict, le général Nourou Thiam, ex-chef d'état-major de l'armée, s'est refusé à toute déclaration. Il a fondu en larmes alors que des proches des détenus dansaient dans la salle. Le général Nourou Thiam et le lieutenant-colonel Mamadouba Bondoban Camara, ancien préfet de Doubreka, étaient en détention préventive depuis juillet 2011. Ils ont été jugés pour désertion et violation de consignes lors de l'attaque du domicile privé du président Condé le 19 juillet 2011. En juillet 2013, le commandant Alpha Omar Diallo, présenté comme le cerveau de cette attaque, et l'officier Jean Guila Vogui avaient été condamnés à la réclusion à perpétuité.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan est à Conakry. Occasion pour la Guinée et la Turquie de signer hier plusieurs accords dans divers domaines, dont la défense, la santé et l'énergie. Erdogan est arrivé jeudi matin dans la capitale guinéenne en compagnie d'une importante délégation qui comprenait, selon le gouvernement guinéen, plus de 230 hommes d'affaires.
Ban Ki-moon poursuit son périple africain. Le secrétaire général des Nations Unies est arrivé hier soir à Conakry, en Mauritanie. Ban a été accueilli à l'aéroport par le ministre mauritanien des Affaires étrangères et de la coopération. Au cours de la journée, il aura des entretiens avec le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz et rencontrera également le Premier ministre Yahya Ould Abdemine.
Un risque sanitaire sérieux pour 180 000 personnes au Soudan du Sud. Les produits chimiques utilisés dans l'exploitation pétrolière ont contaminé la population vivant près d'une usine de traitement dans l'état d'Unité. C'est ce que rapporte Sign of Hope, une ONG allemande qui a mené des études toxicologiques sur place.
Des experts américains sont arrivés en Éthiopie pour aider ce pays à faire face à sa pire sécheresse des 50 dernières années. Les précisions de Lionel Gaïman.
Ils sont une dizaine de membres de l'équipe de réponse aux désastres de l'Agence américaine pour le développement international, USAID, à avoir débarqué à Addis Abeba cette semaine. Leur mission, coordonner la réponse américaine à la sécheresse qui dévaste l'Éthiopie. Ils seront rejoints dans les prochains jours par des spécialistes de la logistique, des nutritionnistes et des experts en eau et assainissement. Il s'agit pour l'administration américaine de prévenir un désastre humanitaire majeur en Éthiopie et de préserver les gains chèrement obtenus par ce pays en matière de développement, a expliqué l'administratrice de l'USAID, Gail Smith, dans une déclaration. Lors de sa visite de l'année dernière en Afrique, le président Barack Obama s'était rendu en Éthiopie. Il a fait de la sécurité alimentaire une des priorités de sa politique en matière de développement, déclarant en 2013 que mettre un terme à la famine en Afrique relevait d'un impératif moral.
L'Algérie a mis en garde jeudi contre une nouvelle intervention militaire internationale en Libye après celle de 2011 et elle a affirmé son attachement à une solution politique à la crise que traverse ce pays voisin. Les précisions d'Eddy Issango.
Pour le chef de la diplomatie algérienne, Ramtane Lamamra, toute autre intervention militaire en Libye engendrera davantage de destructions et de pertes humaines. Depuis une dizaine de jours, les informations se multiplient sur la présence des membres des forces spéciales françaises, américaines ou britanniques en Libye, un pays déchiré par des violences entre factions armées depuis la chute en 2011 des Kadhafi et divisé entre deux autorités rivales. Le chaos en Libye a favorisé la montée en puissance de l'organisation djihadiste État islamique qui occupe Sirte, à 450 km à l'est de la capitale Tripoli, et cherche à étendre son influence, ce qui inquiète beaucoup les Occidentaux.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Des responsables américains de la défense ont minimisé ce jeudi l'aptitude de Pyongyang à mener des frappes nucléaires. Cette réaction fait suite aux déclarations du leader nord-coréen Kim Jong-un sur sa capacité à frapper à chaque instant. L'analyse du gouvernement américain n'a pas changé. Nous n'avons pas vu la Corée du Nord tester ou démontrer sa capacité à miniaturiser une tête nucléaire et la mettre sur un missile balistique, a déclaré un responsable américain de la défense.
Le budget chinois de la défense devrait augmenter de 7 à 8% cette année. Annonce faite ce vendredi par Mme Fu Ying, porte-parole de l'ANP, l'Assemblée nationale populaire, chambre d'enregistrement législatif du régime communiste. Cette estimation de croissance est moins importante que l'an passé, 10,1%. Selon la responsable citée par l'AFP, le montant précis sera officiellement annoncé samedi lors de l'ouverture de l'ANP.
Le président du Conseil européen Donald Tusk, après une visite en Grèce, s'entretient ce vendredi à Istanbul avec le président turc Recep Tayyip Erdogan à 3 jours d'un sommet crucial avec la Turquie sur la crise migratoire en Europe.
Et ici, aux États-Unis, nouveau débat télévisé dans la course à la Maison-Blanche. L'homme d'affaires Donald Trump a subi hier soir des attaques répétées de ses adversaires des primaires républicaines. Des détails avec Jean-Roger Bion.
De 17 candidats au départ, il n'en restait que 4 à Détroit ce jeudi soir pour le 11e débat des primaires diffusé sur la chaîne Fox News. Donald Trump a été attaqué immédiatement sur sa carrière d'homme d'affaires. Le sénateur de Floride Marco Rubio s'est attelé à saper sa réputation en insistant sur les faillites de certains de ses casinos, les entreprises ratées de l'Empire Trump ou le procès civil d'ex-étudiants de l'ex-université Trump qui vendaient des cours sur l'immobilier et l'entrepreneuriat. Vous n'avez jamais employé une personne de votre vie. J'ai employé des dizaines de milliers de personnes, a répondu Donald Trump sur la défensive. Modérateurs et rivaux ont souligné durant l'émission des contradictions et revirements du favori qui peinent à persuader l'ensemble des conservateurs qu'il est bien l'un des leurs. Apparemment consterné par le niveau de la discussion, le gouverneur de l'Ohio, John Kasich, s'est présenté à nouveau comme le candidat le plus raisonnable, vantant son expérience exécutive et au Congrès sur le budget. Le Le débat concluait une journée mouvementée pour le Parti républicain, divisé sur l'ascension irrésistible de Donald Trump.
Jean-Roger Bion, et voilà donc pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco. Ce matin, c'est avec Arzuma Compaoré.
Le Soudan du Sud rejoint les rangs de la Communauté des États d'Afrique de l'Est, EAC, portant ainsi le total des pays membres à 6. Le président tanzanien John Magufuli, président en exercice du bloc régional, regroupant 150 millions d'habitants, a fait l'annonce lors d'un sommet ordinaire à Arusha, dans le nord-est de la Tanzanie. La guerre a durement affecté l'économie du pays, confrontée à une inflation galopante, à l'effondrement de sa monnaie et à une diminution de plus de 50% de sa production pétrolière qui constitue sa principale ressource. Baisse du bénéfice par action du géant sud-africain des télécommunications MTN, qui constate une chute de plus de 50% en 2015 par rapport à l'année précédente, en raison notamment d'une provision enregistrée pour faire face à l'amende record infligée par le Nigeria. En effet, une amende de 3,9 milliards de dollars lui avait été infligée en août par l'autorité des communications du Nigeria, NCC, pour n'avoir pas respecté l'ordre de désactiver dans un délai d'une semaine toutes les cartes SIM anonymes. La désactivation des cartes SIM anonymes s'inscrivait dans la lutte contre la rébellion islamique de Boko Haram. Le chiffre d'affaires de MTN pour 2015 est resté quasiment identique à celui de 2014, à savoir 147,1 milliards de rands, soit 8,66 milliards d'euros, contre 146,9 milliards de rands, soit 8,67 milliards d'euros l'année d'avant. Avant la mesure de désactivation, il était possible d'acheter une puce sans présenter des papiers d'identité. Rappelons que MTN compte 61,3 millions d'abonnés au Nigeria, son premier marché, et couvre 22 pays d'Afrique et du Moyen-Orient.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, c'est sur VOA Afrique, c'est l'heure des sports. Bonjour Eric Manirakiza, on commence tout de suite par du football. Hein, le championnat nord-américain de football donc à Montréal, Didier Drogba va manquer le début de la saison.
Le joueur vedette de Montréal va manquer la première partie de saison 2016 du championnat nord-américain en raison d'une blessure récurrente à un genou. L'absence de Drogba pourrait durer des semaines. Il aurait été approché même durant l'intersaison pour rejoindre l'encadrement de Chelsea.
28e journée du championnat italien avec ce choc entre la Roma et la Fiorentina sur fond de débat sur Totti.
Un choc décisif pour décrocher une éventuelle qualification en Ligue des Champions va opposer l'AS Rome, 3e, à la Fiorentina 4e vendredi pour la 28e journée du championnat d'Italie. Bagassi sur fond de discussion autour de l'avenir de Francesco Totti à Rome en fin de contrat cet été.
Brandi Chastain, championne du monde en 1999, fera don de son cerveau à sa mort.
L'ancienne internationale américaine de football le fait pour aider la recherche sur les commotions cérébrales. À sa mort, le cerveau de Chastain sera analysé par la banque des cerveaux FABUCLF, l'un des laboratoires de référence en matière de recherche sur les commotions cérébrales. Actuellement, seuls 7 des 307 cerveaux déposés dans ce laboratoire proviennent de donneuses.
En athlétisme, la Ligue de Diamants, New York remplacée par Rabat, l'Afrique fait son entrée.
La Fédération internationale a indiqué hier, New York a quitté la Ligue de Diamants et a été remplacée par Rabat, ce qui marque l'entrée de l'Afrique dans le circuit majeur de l'athlétisme. Après 6 années en Ligue de Diamants, l'organisateur privé et directeur du meeting new-yorkais, Mark Wetmore, a décidé de prendre une autre voie avec son partenaire Adidas, celle de l'athlétisme de rue, pour toucher un public plus jeune. Enfin, avec toi Bagassi, les résultats de la NBA comptant pour les matchs de ce jeudi soir.
Oui, on commence par cette défaite de Phoenix qui jouait contre Miami 92 à 108. Les Spurs de San Antonio ont battu les Pelicans de la Nouvelle-Orléans 94 à 86. Victoire de justesse pour Sacramento face à Dallas 104 à 101. Et un peu plus tard dans la soirée, OKC Oklahoma City était aux prises avec les Golden State Warriors de Stephen Curry. Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bagasikoura de nouveau avec vous en direct de Washington. Nous passons maintenant au dossier du jour. Au Niger, même si la sécurité s'est améliorée dans la région de Diffa, des centaines de milliers de personnes sont soit déplacées, soit réfugiées côté nigérien de la frontière. C'est dans ces camps que s'est rendu l'envoyé spécial de VOA Afrique, Nicolas Pino. Voici son reportage.
De part et d'autre de la route nationale 1, les camps se suivent et se ressemblent. Le bitume est brûlant, nous sommes à 1300 km de Niamey, la capitale. Ici, les réfugiés nigérians cohabitent avec les déplacés nigériens. Deux nationalités différentes, mais une seule crainte, Boko Haram. Mataram Kodogo a fui son village avec ses 8 enfants. Depuis le camp de Ngourtois, elle raconte son cauchemar.
Il était 2h30 du matin, c'était le jeudi de la Tabaski. Boko Haram est entré dans le village. Avec les tirs, c'était sauf qui peut, en pagne, en culotte, sans chaussures, tout le monde fuyait. Moi, j'ai pris le plus petit sur le dos, un autre enfant sous le bras et l'autre, je le traînais.
Les témoignages horrifiés se répètent et bien qu'en sécurité avec l'armée nigérienne qui patrouille, les déplacés ont peur. Le quotidien n'est pas facile dans les camps malgré l'aide internationale. Oumaru Boka travaille pour l'ONG italienne Coppi. Il est basé à Diffa.
À part la nourriture, il y a un besoin d'abri. C'est sûr que les gens sont dans des abris de fortune. C'est vrai qu'on ne peut pas donner des abris à tout ce monde, mais il y a ce besoin d'abri. Alors, les ONG, on s'efforce à donner le minimum quand même pour toute la population. Mais vu le nombre de personnes, c'est un peu compliqué.
La région de Diffa était déjà dans une situation alimentaire précaire depuis un an. Les Nations Unies ont enregistré un déficit céréalier de plus de 100 000 tonnes lors de la dernière récolte en 2015. Sous sa tente, Oumara Gobo, le chef d'Assaga Niger, explique les difficultés des 100 familles sur lesquelles il veille.
La situation de la vie, c'est difficile. Depuis que nous étions ici, même avec les vivres que nous avons reçus, ça ne suffit pas. Ce que nous manquons ici maintenant, avec l'éducation, c'est bon. La santé, c'est bon. L'eau aussi, c'est bon. Mais maintenant, c'est le vivre qui nous manque. La population, ils n'ont pas labouré. Ils n'ont pas cultivé. Ils sont croisés les bras comme ça. Ils n'ont rien d'activité à faire.
Conséquence, les réfugiés et les déplacés ont faim dans les camps qui s'étendent de Diffa jusqu'aux rives du lac Tchad. Le défi humanitaire est réel, comme le reconnaît Karl Steinacker, le représentant du HCR au Niger.
On sait que beaucoup d'entre eux n'ont aucun document d'identité, donc c'est difficile d'établir leur nationalité. Mais en ce moment, on a plus de déplacés nigériens que de réfugiés nigérians. Diffa a une population de maximum 600 000 personnes. Vous y ajoutez les 100 000 personnes venues du Nigeria. Donc, sur ces 700 000 personnes au total, au moins la moitié a été déplacée.
De nombreux réfugiés ou déplacés espèrent regagner leur village, si la sécurité le permet. Un espoir qui sera long à se réaliser. En effet, la menace Boko Haram rôde le long de la rivière Komadougou. Et Nicolas Pino, Diffa, VOA Afrique.
VOA Afrique au Niger, à Niamey, 24 heures sur 24, sur 102.5 FM.
Au Bénin, la présidentielle aura lieu dimanche prochain pour déterminer le successeur de Boni Yayi à la tête du pays. Le scrutin se jouera entre 5 candidats sur les 36 en lice. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint à Cotonou le professeur de droit constitutionnel Joël Aïvo.
Après 10 années de gouvernance du président Boni Yayi, le Bénin fait face à une crise morale, crise éthique, à un effondrement de sa vie politique, du système partisan. Et l'enjeu majeur, c'est de trouver les bonnes réponses qu'il faut aux problèmes qui se posent dans le pays et au fond de savoir quel est parmi tous ces candidats celui qui est capable de porter les aspirations des Béninois et de trouver des approches de solutions aux problèmes, surtout aux problèmes économiques et sociaux qui se posent dans notre pays.
Donc le successeur constitue en lui-même un enjeu majeur.
Le successeur constitue un enjeu majeur parce que, comme vous le savez, Heureusement ou malheureusement, l'élection va probablement se jouer contre les indépendants, parce que les cinq qui forment le quintet de tête, parmi lesquels je pense probablement que les Béninois choisiront le chef de l'État, ces cinq qui n'appartiennent pas à des formations politiques, ces cinq indépendants, ce qui projette encore plus violemment la crise du système partisan béninois, que désormais le Bénin semble fonctionner comme une démocratie privée, une démocratie personnelle, où seules les ambitions personnelles, seules les aventures personnelles triomphe parfois de l'organisation des partis politiques. Donc cet enjeu a vu quand même à la classe politique béninoise complètement reconfigurée, d'autant que vous avez la majorité au pouvoir qui s'associe à l'opposition, ou vice-versa, l'opposition qui s'associe à la majorité pour soutenir un candidat, Lionel Zissou, en face duquel vous avez plusieurs autres hauts cadres du pays et parfois des magnats, ce qu'on appelle des opérateurs économiques qui tiennent un peu le poumon économique du pays. Donc vous avez en gros une élection qui va se jouer malheureusement en dehors des formations politiques, parce qu'aucun parti politique n'a présenté de candidat sorti de ses rangs. C'est pour moi un signe de l'échec de notre système partisan et de ce que l'élection qui va se jouer et le mandat qui va s'ouvrir à partir du 6 avril est un mandat de chantier, est un vrai mandat de chantier. Et celui-là doit avoir l'intelligence nécessaire pour rassembler les Béninois, mais surtout pour trouver les solutions aux problèmes économiques, politiques et sociaux qui se posent dans notre pays.
Est-ce que les règles de jeu sont-elles verrouillées?
L'élection au Bénin est très ouverte. Elle est très ouverte. Personne ne peut dire, et je ne connais vraiment pas d'analyste, qui peut avancer que tel gagnera et tel ne gagnera pas. C'est pour vous dire que le jeu est ouvert et que malgré le contrôle de la Sénat par les institutions ou parfois, on dit, par la majorité, on ne peut pas dire que le président Boulay a verrouillé le jeu pour que triomphe son candidat. Personne ne peut le dire. C'est une élection totalement ouverte, je dirais incertaine. Et c'est ça qui fait parfois la beauté de la démocratie.
Voilà, c'était donc Joël Aïvo, joint à Cotonou.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse, voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Élection présidentielle au Tchad, c'est aujourd'hui que la Cour constitutionnelle se prononcera sur les recours introduits par les candidats dont elle a rejeté les dossiers pour diverses raisons. Parmi la dizaine de candidats recalés figure l'opposant historique Ngarlé Diyoronga et l'ancien premier ministre de la transition Fidel Mungar. Pour un éclairage, John Lindon a joint le professeur Amat Mahamat Hassan. Il est constitutionnaliste et enseignant de droit à l'université de N'Djamena.
Il me semble qu'il y a certains rejets qui ne répondent pas aux critères objectifs de violation de la loi électorale, notamment les questions, par exemple, de non-présentation de photos ou d'oubli, qui n'est pas une question intentionnelle, par exemple, pour le candidat Yoronga Ngarledji, ou bien pour d'autres également, pour qui n'ont pas de raisons fondamentales assez sérieuses pouvant justifier le rejet à ce niveau-là.
Alors, y a-t-il un candidat à cette présidentielle dont le programme ou les idées peuvent convaincre l'électorat et donc battre Idriss Déby aujourd'hui?
En Afrique, les votes sont généralement communautaires ou identitaires, je veux dire. Donc, est-ce que vraiment Yoronga a un programme qui pourrait mettre en difficulté le président Déby? Je ne pense pas pour le moment, mais c'est plutôt... Yoronga, c'est quelqu'un qui se représente pour la quatrième fois au présidentiel. Et sûrement que, quelque part, il a son fief du Sud, notamment le Logone occidental et le Logone oriental.
Est-ce que le Conseil constitutionnel est vraiment indépendant au Tchad?
Pour le moment, le Conseil constitutionnel, je suis désolé de le rappeler, parce que il est supposé être indépendant, parce que mais malheureusement, les cinq membres du Conseil constitutionnel sont désignés par le président Déby. Les quatre autres sont désignés par la proposition du président de l'Assemblée nationale, qui est de la même majorité parlementaire que le président Déby. Alors franchement, de là à comprendre qu'il soit indépendant, c'est une question qui est posée.
Comment voyez-vous l'avenir politique du Tchad?
Nous allons avoir des élections assez difficiles. Elles ne seront pas comme les élections passées, qu'on risque d'arriver avec des problèmes de mouvements sociaux, des crises sociales qui se répètent, avec des mouvements de manifestations interdites ailleurs. On risque d'avoir soit des conflits post-électoraux ou les contestations risquent de se résoudre dans la rue. Et ça, je ne souhaite pas cela pour mon pays.
Voilà, le professeur Ahmad Mahamat Hassan, constitutionnaliste et enseignant de droit à l'université de N'Djamena au Tchad.
VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad, 24 heures sur 24, 93.1 FM.
La police pakistanaise recherche un homme soupçonné d'avoir tué ses deux sœurs sous prétexte de défendre l'honneur familial. Des crimes commis au lendemain de l'assassinat à Lahore d'une fille de 18 ans par son père pour la même raison. Environ 1 million de femmes et filles sont victimes de ce type de crime chaque année au Pakistan. Eh bien, pour en savoir davantage, Nathalie Barge a joint le sociologue au Gabonais Steve Mvé. Il est spécialiste des comportements religieux sectaires.
En ce qui concerne les crimes de sang, côté de l'Afrique, elles sont plus fréquentes du côté du nord de l'Afrique, c'est-à-dire dans des pays tels que l'Égypte, la Libye ou la Tunisie, où la religion musulmane est dominante. On n'observe pas encore ce genre de dérive au sein des autres communautés religieuses, telles que la communauté de foi chrétienne.
Revenons sur le Pakistan. Le Pakistan a révisé son code pénal en 2005 pour empêcher que les hommes tuant une femme de leur famille au nom de l'honneur n'échappent au châtiment en s'accordant à eux-mêmes le pardon en tant qu'héritiers de la victime. Que pensez-vous de cela ?
Mais ceux-là qui commettent ces crimes et qui par la suite peuvent s'auto-pardonner peuvent à nouveau récidiver en commettant un nouveau crime de sang. Et ça peut devenir une sorte de culture qui s'établit au sein d'un groupe et une culture qui peut s'exporter. C'est généralement des comportements que l'autorité étatique a du mal à réprimer. Et surtout qu'en réalité, le crime en question intervient souvent pour des questions liées à l'affect, c'est-à-dire la jalousie, la colère. C'est sûr qu'au Pakistan, vous entendrez parler de nouveaux crimes. Malgré la mise en place de mesures, il faut réagir de façon véhémente pour pouvoir impressionner la conscience collective et surtout la conscience de ceux qui ont tendance à vouloir développer des comportements criminels face à des dérives sociales ou religieuses.
Le gouvernement pakistanais lutte d'une certaine manière justement pour punir ce type de criminels, mais l'on constate effectivement que ça continue comme vous venez de le dire. Est-ce que vous pensez qu'un pays comme le Pakistan peut arriver dans les quelques années à venir à totalement éradiquer ce type de crime ?
Comme dans d'autres États majoritairement musulmans, en matière de comportement religieux, ce n'est pas l'État qui fixe la norme, et encore moins qui peut mettre en place des mesures qui soient respectées par l'ensemble des croyants ou par l'ensemble des citoyens de l'État en question. Surtout que vous savez que dans un pays comme le Pakistan, les sectes religieuses sont aussi puissantes que l'État, donc il est difficile que l'État puisse prendre des mesures qui vont être respectées par tous. Je pense que si de ces mesures étaient relayées par les chefs religieux ayant une audience nationale ou internationale, oui, on peut espérer que de tels crimes puissent être éradiqués. Mais connaissant le Pakistan, le contexte actuel, il est difficile que l'État tout seul puisse, avec autorité, prendre des mesures qui vont être respectées.
Voilà, c'était donc Steve Mvé, il est spécialiste des comportements sectaires. Il était joint à Libreville. Pour écouter l'entièreté de cette analyse, rendez-vous sur voaafrique.com.
Salut les amis, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque vendredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
See, I just need privacy. Plus a whole lot of tricks, all this modesty. I just need space to do me, get a world what they're trying to see. A Stella Maxwell right beside of me. A Ferrari, I'm buying three. A closet of Saint Laurent, get what I want when I want. Cause this hunger is driving me, yeah. I just need to be alone. I just need to be at home. Understand what I'm speaking on. If time is money, I need a loan. But regardless, I'll always keep keeping on. Fake friends, we don't take L's, we just make M's. While y'all follow, we just make trends. I'm right back to work when that break ends. Yeah.
Ooh, it's just me, myself, and I. Solo ride until I die. Cause I got me for life.
Got me for life.
Alors, Michel Joseph était à la réalisation, David Magnès à la console technique, présentation Bagassi Koura et Michel Joseph. Ainsi va le monde aujourd'hui. Restez informés 24 heures sur 24 grâce à notre site internet et notre page Facebook. Passez un excellent week-end et aussi une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique.